bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région du Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. La crise sécuritaire au Burkina Faso met en péril la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Ces derniers doivent jongler entre nécessité d'informer et menaces constantes. La présence russe à Gao, aussi au Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, diversement appréciée par l'opinion locale. La controverse autour du référendum constitutionnel au Mali, nous verrons comment les médias locaux en rendent compte. C'est dans notre fait marquant de la semaine. Une association d'aide alphabétise des enfants déplacés à Bobo-Dioulasso pour leur offrir une lueur d'espoir. Alidou Ouedraogo nous parler d'une école pas comme les autres. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Les journalistes au Burkina Faso font face à de nombreux défis en raison de la crise sécuritaire qui dure depuis 8 ans. Ils doivent trouver l'équilibre entre informer avec précision et respecter les mesures strictes imposées par les autorités. Ils sont confrontés à des pressions et des menaces constantes sur leur vie. Découvrez comment les journalistes travaillent à l'ère de la crise sécuritaire dans ce reportage de notre correspondant Gilles Dasta.
15 avril dernier, dans une attaque, 32 volontaires pour la défense de la patrie sont tués pendant de longues heures. Au niveau des différents médias burkinabés, c'est l'omerta. Ce cas est symptomatique de la situation des médias burkinabés depuis quelques mois. Des médias sous pression, notamment lorsqu'ils traitent de certains sujets relatifs à la crise sécuritaire. Et c'est là, Atiana Serge Oulon en sait quelque chose. Son journal d'investigation L'Événement avait publié une enquête sur le détournement de 400 millions de francs CFA par un capitaine. Le directeur de publication sera tout simplement auditionné par la justice militaire.
L'audition a tourné autour des sources d'information. À la justice militaire, c'était pour savoir qui a parlé, qui m'a parlé, à qui j'ai parlé. Est-ce que je peux donner des noms? Est-ce que c'est possible de donner des contacts?
Et les choses vont aller crescendo. La justice veut faire sauter son droit à la protection de ses sources.
Ils avaient déjà préparé une ordonnance pour lever justement cette protection et me faire injonction. De donner en fait mes sources. C'est la première fois au Burkina Faso qu'on sollicite une ordonnance du président du tribunal de grande instance afin que les journalistes puissent donner ses sources.
Un média sera convoqué par l'autorité de régulation des médias relativement à un autre article. Le Burkina, jadis considéré comme l'un des pays les plus libres en termes de liberté de la presse, est en net recul. En un an, le pays a perdu 17 places au classement de Reporters sans frontières. Rien d'étonnant pour Moussa Sawadogo, enseignant en journalisme. Les résultats de l'étude qu'il a dirigée pour le compte du centre de presse du Burkina étaient inquiétants.
Notre étude a montré que nous étions à 22 journalistes burkinabés qui ont été directement l'objet de discours de haine, voire d'appels au meurtre. 22 journalistes. Et nous avons 7 médias qui ont reçu des messages de discours de haine, d'insultes.
L'origine des menaces a changé au fil des régimes. C'est ce qu'a constaté le journaliste Blaise Kietga.
Dans un premier temps, les menaces venaient donc des pouvoirs, venaient aussi donc par moments de forces de défense et de sécurité. Mais de plus en plus, ce qu'on est en train de constater par moments, c'est que c'est des menaces qui viennent par moments de citoyens.
De nombreux médias burkinabés ont dû adapter leur manière de donner l'information sécuritaire.
Il faut composer avec aussi, et je crois que c'est des moments aussi, bon, il faut redoubler de vigilance, être encore plus professionnel pour ne pas prêter de flanc.
Aujourd'hui, les journalistes burkinabés travaillent dans une situation de peur. On a peur, voilà. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas l'information de ce. Même si, dans le contexte actuel, il est aussi important que les journalistes s'interrogent sur la pratique journalistique pour tenir compte quand même des conditions d'insécurité et très difficiles pour le pays actuel.
Nous n'avons pas pu obtenir de réaction au niveau du gouvernement sur ce sujet. Mais lors d'une rencontre avec la presse, le ministre de la Défense se disait triste que le Burkina ait régressé au classement RSF. Au mois d'avril déjà, le Conseil supérieur de la communication s'était fendu d'un communiqué.
Le Conseil supérieur de la communication exhorte les autorités à prendre les mesures idoines pour assurer la sécurité des médias et des journalistes dans l'exercice de leur profession. Il encourage également les professionnels de l'information à mettre leur responsabilité sociale au cœur de leurs pratiques dans un contexte national marqué par des crises.
Selon une étude de l'Institut national de la statistique, en 2021, le Burkina comptait 393 médias fonctionnels de tout type. Une situation due au vent de liberté de la presse dans le pays, un attrait pour le journalisme qui a grandi depuis l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998.
Voilà, ce reportage est de Gilles Dasda, illustratif pour planter le décor. Gilles Dasda est avec nous. Bonsoir, Gilles Dasda.
Bonsoir, Eric.
Quelles sont les autres pressions les plus courantes auxquelles les journalistes burkinabés sont confrontés et que disent les autorités?
Ce sont principalement des insultes, hein, des dénigrements du style « vous êtes un mauvais journaliste, vous êtes un apatride ». On entend aussi parler de médias collabos, de médias impérialistes. Là, on parle bien des médias burkinabés, hein, ce qui est assez étrange. C'est vraiment tout un ensemble de vocables qui a été développé contre les journalistes. Mais il y a bien pire, comme vous l'avez entendu dans le reportage. Il y a des appels au meurtre, des appels à incendier des médias, ou à visage, des appels qui se font à visage découvert. C'est ce qui est étonnant. Donc, ce sont des individus qui traitent les journalistes quand ils n'aiment pas votre façon de traiter l'information, ils vous traitent de djihadistes ou de relais de djihadistes. Il y a aussi des activistes très suivis sur les réseaux sociaux qui appellent à boycotter tel média au profit de tel média qui est considéré comme un média patriotique. Alors, votre question, qu'est-ce que le gouvernement dit ? De ce que je sais, le gouvernement a réagi récemment à un communiqué des Nations Unies et le gouvernement a dit que le respect de la liberté d'expression était respecté au Burkina. Hormis cela, on a l'habitude d'entendre le gouvernement parler plutôt à la communication de guerre. Le gouvernement dit souvent aux journalistes des sous-entendus d'autocensure. On dit aux journalistes, nous sommes en guerre, il faut que vous fassiez de la communication de guerre. D'ailleurs, à la rencontre gouvernement-média de la semaine passée, il y a un ministre qui a dit qu'en temps de guerre, le stylo est une arme et que le journaliste doit savoir contre qui il doit utiliser cette arme et pour qui il doit utiliser cette arme. Donc le sous-entendu est assez clair, Eric.
Oui, merci Gilles Dasda. J'espère qu'on ne vous demande pas d'ignorer l'éthique et la déontologie journalistique. Et comment ces journalistes parviennent-ils à maintenir leur sécurité personnelle tout en poursuivant leur travail d'information dans ce contexte de menaces constantes?
J'ai envie de vous dire, Eric, que c'est une très belle question. Les journalistes burkinabés sont actuellement sur leur garde. Il y a certaines manifestations où les journalistes préfèrent ne pas aller, où les rédactions préfèrent empêcher les journalistes d'aller parce qu'il y a des chances, ou par rapport à un visage reconnu, ou par rapport à un média reconnu, il y a des possibilités d'agression sur le terrain. Donc, quand cela se passe, il y a des rédactions qui décident de ne pas envoyer des reporters sur le terrain. Et au vu de cela, ces mêmes personnes qui sont capables de faire ces menaces vont dire par la suite « Ben non, tel média n'est pas venu à notre manifestation, c'est un média collabo, c'est un média terroriste, c'est un média contre la transition, c'est un média qui travaille pour les terroristes. » Ce que vous savez, Eric, ce qui est totalement faux, mais c'est malheureusement ce qui fonctionne dans la tête des gens. Et pour en revenir à l'éthique et à la déontologie, les journalistes ont mis beaucoup plus d'accent actuellement, beaucoup plus de minutie pour les recoupages, des recoupages des événements qui se passent sur le terrain. Mais il y a aussi un petit souci, c'est que souvent quand on a des informations, certaines informations sont mises sous boisseau, sont déposées et on préfère attendre une réaction officielle avant de faire la confrontation pour voir en termes de réalité ce qui s'est passé. Donc vous voyez effectivement que ça pose un problème parce que les journalistes ont peur, parce que les journalistes craignent pour leur sécurité, parce que les journalistes craignent surtout d'être déployés sur certains forums. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée, ou plutôt un décret qui a été pris, qui permet de pouvoir déployer qui que ce soit quelques Burkinabés que ce soit sur le front, sur simple demande du président du Faso.
Merci Gildas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y a un activiste burkinabé qui a envoyé un commentaire à VOA Afrique qui dit « Il n'y a jamais eu une tendance aussi forte de musellement de l'opinion depuis l'avènement de l'indépendance. Les journalistes ne s'étaient jamais sentis autant menacés. Il y a une volonté manifeste d'instaurer une pensée unique. » C'est l'activiste Diallo qui nous a envoyé son commentaire. Nous avons le plaisir d'accueillir notre analyste, le professeur Diallo Boubacar, pour son expertise et son échange sur le sujet. Il est le coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherche sur les conflits et la sécurité. Monsieur Boubacar, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est votre analyse générale de la situation actuelle de la liberté de la presse dans la région du Sahel ?
Oui, il faut reconnaître que la région du Sahel a connu un net recul de la liberté d'expression. Et cela est lié aussi à un net recul des démocraties dans la région. Nous avons au Sahel au moins trois pays qui sont dirigés par des militaires, le Mali, le Burkina et le Tchad. Donc ce sont des régimes d'exception qui sont arrivés au pouvoir à la suite de crises politiques. Donc de manière générale, ces régimes d'exception portent toujours atteinte à la liberté de la presse. C'est
alors,
quelque chose qui est bien dans
oui,
la région.
Vous avez suivi ce reportage de Gilles Dasda et ses explications. Censure et répression des médias, comment cela affecte-t-il la qualité et la diversité de l'information disponible pour les citoyens ?
Mais d'abord, je pense que pour les journalistes, c'est un défi la quête de la liberté de presse et de la liberté d'expression n'a jamais été quelque chose de facile. Rappelez-vous que de 1918, le sénateur américain William Hiram disait que quand la guerre arrive, la première victime, c'est la vérité. Donc les journalistes dans la région travaillent à donner une information crédible dans des conditions extrêmement difficiles, avec des tensions avec les pouvoirs en place. Et donc, ce qui a lieu de faire, il faut surtout que les journalistes ne cèdent pas à la peur, que les journalistes restent professionnels, éviter surtout de donner des informations sensationnelles. Et l'une des faiblesses de l'information dans la sous-région, c'est effectivement la vérification de l'exactitude de l'information. Et parfois même, les leaders d'opinion sont frappés par ces mesures et ils sont à la fois effrayés de la même manière que les journalistes. Donc, il faut travailler de manière professionnelle, il faut savoir chercher l'information, vérifier l'information, et lorsque vous diffusez une information exacte, une information vérifiable, je pense que quelle que soit la fureur des régimes en place, vous pouvez toujours exercer votre métier.
Oui, monsieur Boubacar, il y a aussi un aspect politique. Il y a apparemment un sentiment que les libertés apparentes étaient plus le fait de la coopération occidentale que des réels ressorts sociétaux. Comment analysez-vous ce revirement idéologique ?
Non, moi je m'inscris en faux contre cette idée, même si la presse de type moderne a une essence occidentale. Dans les sociétés sahéliennes, il y a un proverbe qui dit « la hauteur de l'herbe n'empêche pas d'entendre le cri de la pentade ». Un pays comme le Niger, vous ne pouvez jamais museler les opinions publiques. Les citoyens diront toujours ce qu'ils pensent des régimes et ils le diront d'ailleurs de manière à ce que le pouvoir public eux-mêmes s'efforce de s'adapter à cette façon innée de s'exprimer librement. Maintenant, il est vrai que la communauté internationale, la coopération internationale a travaillé à défendre les journalistes, à financer les journalistes, mais l'inconvénient, c'est que les journalistes ne pourront pas aussi dire les travers de la communauté internationale. Et la crise actuelle, elle est liée au fait que les journalistes se sentent plus proches de leur peuple, ils sont plus proches des peuples nigériens, du peuple burkinabé, du peuple malien, du peuple tchadien. Ils défendent les intérêts de la région, ils sont contre
l'exploitation. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la liberté de la presse dans cette région du Sahel face à cette situation qui, selon beaucoup, ne favorise pas le débat contradictoire ?
Je pense que le débat contradictoire, il va continuer à exister, nonobstant la présence des régimes à intention censitaire. Je suis optimiste pour la région parce que de plus en plus les journalistes vont être professionnels et de plus en plus aussi les citoyens s'organisent à défendre les droits des citoyens. Donc les peuples ne vont pas laisser les pouvoirs en place qui le plus souvent peuvent avoir une liaison avec la communauté internationale pour contribuer à museler la presse. Parce que dans le Sahel aujourd'hui, les opinions sont davantage contre l'interventionnisme occidental que contre autre chose. Ils peuvent s'accommoder de la violence des régimes en place, mais ils n'ont pas envie d'avoir des forces étrangères ou bien une communauté internationale qui leur impose une vision.
Merci. Merci, professeur Diallo Boubacar. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherches sur les conflits et la sécurité. Merci pour votre expertise et votre éclairage sur le sujet.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
La présence des instructeurs russes à Gao, selon Bamako, pour aider les forces maliennes dans la lutte contre les terroristes opérant dans la région, suscite des opinions mitigées parmi les populations locales. C'est la correspondance de Boubacar Touré depuis Gao.
Appelé instructeur aux partenaires russes par les autorités maliennes, mercenaires de Wagner ou supplétifs russes par les Occidentaux, les militaires russes sont bien présents dans la région de Gao. Personne ne peut le contester. Libre de tout mouvement, nous a confié Nuhu Salahou Sissé, un habitant du quartier d'Aljana Bancha.
Mais on ne peut pas nier quand même que des groupes sont là, en appui à l'armée malienne, et qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le terrain, ils ont l'espace. Maintenant, quand ils sont là, ils n'ont plus le droit d'échouer. C'est clair. Maintenant, nous voulons que ce qui se passe tout de suite, que ça soit vite fait, dans un temps record, mais pas qu'ils s'éternisent quand même, et que ça soit plus grave encore que ce que nous pensons.
Tramandembéry est un commerçant de pièces détachées au marché du château. Pour lui, quelle que soit leur appellation, s'ils sont résolument engagés à aider le Mali, qu'ils soient les bienvenus.
Quand on dit les Wagner ou bien les mercenaires, moi personnellement, leur rôle, c'est juste de faire la guerre. Bon, nous, on veut la paix, la liberté. Quel que soit, que ce soit Wagner, que ce soit autre, s'il fait notre affaire, c'est mieux. Ils sont venus également ou bien inégaux, ça c'est autre chose. On veut la paix, si ils seront la solution de notre paix, ils sont les bienvenus.
Nous sommes fatigués. Nous voulons la paix, nous a confié Fatoumata Meïga, ménagère à Aljana Bandia, mère de deux garçons et une fille.
L'arrivée des soldats russes nous a vraiment fait plaisir et nous sommes contents parce que nous avons vraiment souffert. Barkhane est arrivé en voulant nous sauver, mais nous n'avons rien vu d'amélioration. Nous ne voulons que de l'aide et eux, ils disent qu'ils peuvent nous aider par rapport à notre combat. Nous voulons qu'ils s'ajoutent à nos soldats pour qu'ils puissent nous délivrer de cette difficulté. Nous voulons que la paix, que Dieu fasse prospérer la paix.
Pour avoir la paix, il faut accepter le combat. C'est ce que nous dit nous, Oumar, un jeune leader de Sosokouya.
Aucun pays n'a connu la paix sans le combat, sans les armes. Donc, il faut s'adonner à tout. Donc, je pense que l'armée doit s'activer avec les autres partenaires et ensemble, on va lutter contre ce terrorisme.
Issouf Issa est un jeune du quartier de Faradjiré. Pour lui, la présence des forces étrangères au Mali n'est pas une bonne chose. Il s'explique.
Je pense que les autorités savent ce qu'elles font. À mon humble avis, ce n'est pas une bonne idée. On peut coopérer avec la Russie, on peut acheter, payer du matériel avec des partenaires russes, avec des partenaires américains. Mais je pense que après ce qu'on a vu avec Barkhane, après tout ce qu'on a dit sur Barkhane, je pense qu'aujourd'hui, cette lutte, cette guerre, elle est malienne. C'est les Maliens qui doivent faire cette guerre et non quelqu'un d'autre.
En tout cas,
Les groupes armés agissant au nom de l'islam au Mali continuent de semer la terreur au sein des populations de la région. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le fait marquant de cette semaine est la tenue du référendum constitutionnel au Mali, prévu pour le 18 juin prochain, suite à une décision des autorités de la transition. Pour discuter de la controverse qui entoure cette initiative et examiner comment les médias locaux couvrent le sujet, nous accueillons le journaliste Sekou Tangara de Africa Ball Télévision, notre télépartenaire à Bamako. Bonsoir Tangara.
Bonsoir Eric.
Alors, certaines dispositions du projet de ce référendum constitutionnel suscitent la controverse au Mali. Quelles sont les préoccupations exprimées par les différents groupes et parties prenantes et comment ces préoccupations ont-elles été relayées par les médias locaux?
Eric, il y a trois principaux points qui font polémique hein, par rapport à ce projet de nouvelle constitution. Le premier point, c'est la question de laïcité. De plus en plus au Mali, il y a des voix qui s'élèvent pour demander à ce que le pays bascule vers une république islamique. La question a été tranchée par la commission chargée de finaliser le projet de constitution. Cette commission a pensé que la laïcité telle que prônée dans les constitutions successives du Mali depuis l'indépendance mérite d'être maintenue, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
La deuxième controverse.
La question fait débat. Le deuxième point, c'est la question des langues nationales. Beaucoup de Maliens avaient pensé qu'avec la situation que le pays connaît, que ce sont les langues nationales qui allaient être la langue officielle. Et là également, la commission chargée de finaliser le projet de constitution a tranché sans trancher parce que finalement, ce sont toutes les langues nationales du Mali qui sont susceptibles à moyen long terme d'être la langue officielle du pays.
Et le troisième point?
Le troisième point, c'est la question de la rigidité de la constitution. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi il faut forcément passer par un référendum pour modifier la constitution, alors que on peut, à travers les deux chambres, le Sénat et puis l'Assemblée nationale, juste procéder à des amendements, comme cela a lieu dans certains pays très, très démocratiques, dans certaines vieilles démocraties. Donc ce sont un peu les trois points qui font principalement polémique par rapport à ce nouveau projet de constitution ici au Mali.
Et quels sont les principaux défis auxquels les journalistes locaux sont confrontés lorsqu'ils couvrent des sujets politiques controversés comme celui-ci, en particulier dans un contexte de transition politique?
Le défi auquel les journalistes sont confrontés, c'est le défi des sources, c'est le défi de la documentation parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. On peut même dire que la démocratie est entre guillemets, entre parenthèses. Donc si on veut avoir toutes les voix discordantes, il n'y a plus de réticence de voix discordantes à venir sur les radios, à venir sur les émissions télé pour donner leur point de vue parce que ce qu'on a entendu au Burkina Faso, j'ai suivi le reportage, c'est souvent la même chose, c'est trouvé ici au Mali. Ils sont traités d'apatrides, d'ennemis de la nation, ce qui fait que souvent, pour équilibrer un certain nombre d'informations, un certain nombre de débats, on peut facilement avoir des soutiens de la transition du régime, mais de l'autre côté, les gens se retiennent de plus en plus. Ça, c'est vraiment un défi qui se pose à la presse dans cette période exceptionnelle-là.
Et quelles sont les implications du référendum constitutionnel pour l'avenir du Mali, en particulier en ce qui concerne la transition politique en cours et la consolidation de la démocratie, Tangara?
Alors, pour répondre à cette question, il faudrait faire un tout petit peu d'histoire politique du Mali. Ici, on est comme dans des cycles de 30 ans. Si vous prenez, par exemple, 1960, ça a été la période de l'indépendance. Et 30 ans après, en 1990, ça a été la période de la conférence nationale. La conférence nationale qui a même fait basculer le Mali vers une troisième république et puis la constitution actuelle. Et 30 ans encore après, c'est-à-dire en 2020, il y a eu le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et ce qu'on a appelé les Assises nationales de la Refondation qui ont souhaité à ce que le Mali passe vers une quatrième république. Donc les implications de cette nouvelle constitution, c'est que peut-être ce seront des réformes politiques et institutionnelles. Le Mali va par exemple avoir... deux chambres, le Sénat, l'Assemblée nationale, et que désormais le président de la République qui va contrôler un certain nombre de pouvoirs, mais en termes de nomadisme politique, par exemple, des députés ou des maires, puisque souvent ils se font élire sous une bannière, mais une fois à l'Assemblée nationale ou à la mairie, il y a ce qu'il y a, on appelle la transhumance. Et la nouvelle constitution, en tout cas, malgré tout ce qu'on dit, met un terme à tout cela.
Donc, merci, Sekou Tangara de Africable Télévision. Vous êtes de notre télépartenaire à Bamako. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bobo-Dioulasso, une ville accueillant des milliers de personnes déplacées, héberge actuellement des familles vivant dans la précarité. Dans ce contexte difficile, une association de soutien aux femmes et aux enfants en difficulté a décidé d'entreprendre une initiative éducative en alphabétisant certains des enfants déplacés. Alidou Ouedraogo nous amène à la découverte d'une école unique à son genre. Suivez.
Nous sommes dans la zone non lotie du secteur 31 des Bobo-Dioulasso, une zone hautement précaire. Au milieu d'ordures de toutes sortes et dans les ruines d'anciennes bâtisses, seuls quelques bâtiments tiennent encore. Ici vivent des centaines de personnes déplacées internes. Un vieux bâtiment au toit noirci par on ne sait quoi sert de salle de classe aux enfants déplacés.
La classe là-même, là, c'est considéré en bango. Donc en bas, là, c'est pas cimenté. Les enfants marchent, la déchirent, la poussière s'élève. Donc les maîtres actuellement avec les élèves, ils n'ont pas fait une semaine ou deux semaines là, sans qu'elle la tout là, ne monte pas chez nous.
Il est 8 heures. Les cours doivent commencer. On entend d'abord l'hymne national. La trentaine dépassée et vêtue d'un t-shirt multicolore, Adama Souri est celui qui s'est résolu à donner un peu de savoir à ses enfants.
Bon, actuellement, on a 21 personnes. Ils sont plus que ça aussi. On essaie de les apprendre à lire, à écrire, à dialoguer avec eux un peu. La première des choses, d'abord, on n'a pas une salle pour les encadrer. Ça, c'est la première position. En deuxième position, on manque de matériel. Donc.
Ils sont au total 65, mais seuls 21 ont répondu présent. Le maître Adama Souri.
Ils ont faim. Quand il n'y a pas à manger, ils ne viennent pas régulièrement. Bon, aujourd'hui, actuellement, ils ne sont pas nombreux parce que notre cantine est finie. Il n'y a rien à préparer. Donc, quand ils viennent voir qu'il n'y a rien à préparer, sûrement, il y a d'autres qui se cassent pour rentrer à la maison.
Malgré le contexte difficile, ces apprenants se plaisent dans la lecture.
Yati, Kala, Keleon, Biu, Ali, Kemeo, Kata, Keme, Kase, Keme Konotoni, Bi Konotoni Konoto, Ma, Odao, Nono, Bebi, Sebeni, Yatide, Saba.
Alima Saba est la coordinatrice du projet. Elle nous parle des perspectives d'avenir pour ses enfants.
Quand ils finissent d'apprendre à lire et à écrire, il y a une formation, il y a la couture qui est là. Ils font la couture aussi deux fois dans la semaine. Et après tout ça, on essaie de voir avec l'inspection s'il y a d'autres qui peuvent même aller passer même l'examen. Donc on essaie avec eux s'ils peuvent vraiment nous aider à ce que ces enfants-là puissent aller passer leur chute.
Occasion pour Bouakar Bamouni de la coordination des organisations de la société civile de fustiger ceux qui exploitent ces personnes déplacées.
C'est des initiatives vraiment à encourager. Certes, il y a beaucoup de gens qui passent par se déplacer internement pour faire des business sur leur dos. Ils font croire aux gens et ce qu'ils font en réalité, c'est pas ça. Mais dans la réalité, il y a toutes ces associations qui réellement se battent sur le terrain auprès de ces déplacés internes, recueillent les enfants de ces déplacés internes pour essayer de leur donner au moins une éducation et pour qu'ils puissent aller à l'école, même si c'est pas aussi à 100% qu'ils arrivent à suivre leurs cours. Mais en tout cas, ils font un petit effort.
Bobo-Dioulasso n'abrite aucun camp de déplacés et c'est la croix et la bannière pour ces personnes qui ont fui leur localité. Ali Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel sur VOA Afrique. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel via Facebook et notre compte YouTube. Merci également à nos invités. Merci à nos correspondants. Merci à toute l'équipe de production. Eric Manila qui a été avec vous. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.